informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtoré.
Oméga, bonsoir. À la une de l'actualité, attaque de gaz kindé dans le Soum. Au moins 10 soldats tués, une trentaine de blessés, dont un civil, selon des sources sécuritaires citées par l'AFP. En Guinée, l'ancien président Dadis Camara passera cette nuit en prison. Il comparaît demain pour les faits relatifs au massacre du 28 septembre 2009. Aux États-Unis, 5 militants d'extrême droite, partisans de l'ancien président Donald Trump, sont devant le juge. Ils sont jugés pour leur participation présumée à l'attaque contre le Capitole, le siège du Parlement, le 6 janvier 2020. Discours du Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies. On en parle avec notre invité Oumarou Koualaga, l'expert en relations internationales, déplore des propos violents du Premier ministre malien. Avec lui, on parle aussi des conséquences éventuelles de ses déclarations sur le plan diplomatique. Et c'est à suivre à la suite de ce journal, dans la suite donc de Oméga Soir. Madame, Monsieur, voici donc pour les titres à développer dans un instant. Merci de nous suivre sur Radio Oméga. Attaque contre un convoi de vivres à Gaskindé, au moins 10 morts parmi les soldats selon des sources sécuritaires citées par l'AFP. Une trentaine de personnes ont été blessées, dont un civil selon les mêmes sources. L'AIB, elle, indique qu'une contre-offensive de l'armée est en cours depuis plusieurs heures. Selon les sources que cite l'AIB, l'agence d'information du Burkina, les combats se poursuivent et il n'est pas encore possible de dresser un bilan définitif. Hier, dans un communiqué, l'état-major des armées évoquait des dégâts humains et matériels sans autre précision. Le convoi attaqué était constitué de plusieurs dizaines de camions de vivres escortés par une unité du 14e régiment inter-armes. Le 5 septembre dernier, un convoi similaire a été attaqué sur le même axe entre Djibo et Bourzanga, faisant 35 morts civils et 37 blessés. Le 24 avril dernier, c'est le détachement militaire de Gaskindé qui a été visé par une attaque causant la mort d'au moins une dizaine de personnes, dont 5 militaires. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi sur le volet judiciaire et les acteurs de la justice pénale se forment aux méthodes d'enquête spécifiquement sur la répression des violences sexuelles liées au terrorisme. Ils sont venus de 5 pays dont le Burkina pour participer à cet atelier régional organisé par l'Institut international pour la justice et l'état de droit. Les techniciens d'entrevue des victimes, l'importance de corroborer les preuves, la collecte et l'analyse de preuves sont entre autres points abordés. On en sait plus ici avec Valérie Traoré et Joël Sauré.
Renforcer les capacités des praticiens du secteur de la justice pénale sur les enquêtes relatives aux violences sexuelles liées au terrorisme, c'est l'objectif que s'est assigné l'Institut international pour la justice et l'état de droit. Cet atelier qui va durer 3 jours réunit des juges, procureurs et enquêteurs venus du Burkina, du Mali, du Togo, du Bénin et de la République centrafricaine. Maître Barthélemy Kéré, ministre de la Justice, salue l'initiative.
Nous sommes dans un pays victime du terrorisme. On a souvent parlé, bien sûr, des atteintes à la vie, on a parlé donc des atteintes à la santé, etc. Mais très rarement, on a visé une question spécifique, les violences sexuelles dans ces milieux. Même les professionnels qui ont la charge de ce dossier n'arrivent pas effectivement à pouvoir identifier le fléau. Ces activités permettront en fait à l'ensemble des professionnels, vous avez vu, les experts sont venus de plusieurs pays, avec les experts de chez nous, elles vont échanger les idées dans le cadre d'une plateforme pour voir comment effectivement on peut identifier de manière précise ce fléau.
Cette formation vise à ouvrir la voie à de meilleures enquêtes dans les affaires de violences sexuelles liées au terrorisme et à une responsabilisation accrue des acteurs. C'est également l'occasion de susciter une discussion nationale et régionale sur les questions de sécurité en lien avec le genre. Gaëlle Fisk-Malone, directrice des programmes.
Nous sommes ici pour encourager les acteurs de la chaîne pénale de mieux prendre en compte ce problème d'écouter les victimes, d'adopter une approche plus centrée vers les victimes et un jour avoir un meilleur succès avec les poursuites contre les auteurs.
Cet atelier est organisé en collaboration avec le ministère du Genre et de la Famille. Créé en 2014 à Malte, l'Institut international pour la justice et l'état de droit est engagé dans la formation des acteurs intervenant dans la lutte contre le terrorisme.
Omega, à la suite de ce journal, on parle changement climatique. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays d'Afrique de l'Ouest, subit de plein fouet les effets de cette crise. Le SPONG, secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, veut contribuer à développer une résilience des populations face au dérèglement, d'où la tenue d'un atelier ouvert ce mardi, prévu pour durer 3 jours. Il réunit des experts du programme Benkadi, venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Solomon Nikiema, Judith Traoré.
Agir ensemble pour renforcer la résilience des populations face aux effets néfastes du changement climatique en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de cet atelier régional de la planification pour l'année 2023. 3 jours durant, les participants vont réfléchir à apporter leur contribution au changement climatique. Sylvestre Tientoré, directeur régional du programme Benkadi.
C'est un atelier au sorti duquel nous devrons disposer d'un plan de travail et budgétaire pour l'année 2023. Et également, c'est l'occasion pour nous aussi de capitaliser certaines bonnes pratiques. Et nous avons des thématiques phares. Cette année, la thématique phare sur laquelle nous travaillons, c'est le genre et l'inclusion dans les changements climatiques, dont les résultats seront présentés également aujourd'hui. Et nous allons préparer aussi la planification thématique pour l'année prochaine qui va porter sur le renforcement des capacités.
Financé par le Royaume des Pays-Bas, cet atelier va permettre de planifier les stratégies de la théorie du changement climatique. Le chargé de programme World and Dad, basé au Royaume des Pays-Bas, dit ne pas être totalement satisfait des 2 années passées. Lorenz van Brucken.
And we are not happy yet with everything.
Nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été menées en tant que telles. Et nous attendons beaucoup des 2 années qui viennent. Les 2 autres années qui viennent, il y a beaucoup de choses que nous devrons réaliser. Et c'est là que nous allons vraiment voir comment est-ce que nous arrivons à avancer.
Your help being journalist as well.
Le programme Benkadi a une durée de vie de 4 ans et a débuté en 2021. Il a pour cible, entre autres, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les personnes en situation de handicap. Au Burkina, il intervient dans cette région, à savoir le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Est, le Plateau Central, les Cascades et le Centre-Ouest.
Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes au Burkina. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, octroie des bourses kits scolaires à des orphelins et enfants défavorisés. Des veuves d'assurés sociaux ont également bénéficié de vivres. Au total, c'est 300 personnes qui sont concernées par cet acte de solidarité posé ce mardi à Ouagadougou. Pierre Badolo a assisté à la cérémonie.
Les orphelins et des enfants défavorisés, mais aussi des veuves, des assurés sociaux, dont la pension n'excède pas la somme de 30 000 francs CFA, c'est à l'honneur de ces personnes que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a organisé cette cérémonie de remise des bourses d'études, de kits scolaires et de vivres ce 26 septembre. Djibril Toé, directeur général de la CNSS.
Notre objectif, c'est quand même de marquer notre solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables que sont les orphelins, veuves, avec la situation actuelle du pays. C'est vrai qu'on le fait depuis 1978, comme on l'a dit, hein, mais cette année, on a décidé quand même de marquer un peu le coup en passant donc de 150 à 300.
L'initiative est appréciée par le ministre de la Fonction publique qui a marqué de sa présence à cette cérémonie et aussi par le parrain qui a salué le geste de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a pensé à soulager les orphelins à cette rentrée scolaire difficile. Lassine Diawara, parrain de la cérémonie.
Personne ne peut rester insensible quand il s'agit de la veuve, de l'orphelin et les personnes vulnérables. J'ai pensé que c'était une occasion d'élargir davantage notre champ d'intervention en essayant d'associer nos efforts à ceux de la CNSS venir en aide veuves, aux orphelins, aux personnes vulnérables. Donc pour moi c'est une cause noble et je ne peux pas rester en dehors de ça et c'est un grand honneur pour moi.
Les bénéficiaires composés d'orphelins, d'enfants défavorisés et des veuves ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Mouniratou Badini, représentante des récipiendaires.
Grâce à cette bourse, la charge financière des frais de scolarité de nos parents et tuteurs seront allégées et nous vous en sommes reconnaissants pour toujours.
325 personnes ont été impactées par cette remise des dons. Ce sont entre autres des orphelins, des veuves et des enfants vulnérables. Elles ont reçu des bourses d'études, des kits scolaires d'une valeur de 40 000 francs CFA et des enveloppes de 80 000 francs CFA pour des élèves, aussi des vivres et des enveloppes pour des veuves. Pour cette édition 2022 organisée par la CNSS et accompagnée par les établissements financiers et assurances, la contribution totale s'élève à plus de 33 millions de francs CFA.
L'Institut des sciences des sociétés rend hommage à son ancien directeur, Dr Basga-Émile Diala. Le socio-anthropologue à la retraite a dirigé plusieurs projets de recherche scientifique à la tête de cet institut, mais aussi au niveau du CAPES, Centre d'analyse de politique économique et sociale. Un séminaire scientifique a donc été organisé en son honneur. L'initiative vise aussi à soutenir la recherche en faveur du développement durable en s'appuyant sur les acquis engrangés par les dévanciers. La cérémonie d'ouverture des travaux est intervenue ce mardi dans les locaux de l'INSS en présence de Moumouni Tamboura et Abdelaziz Oulabou.
Dr Basga-Émile Diala a passé toute sa carrière en tant qu'ancien chercheur sur la problématique du développement durable fondée sur nos valeurs socioculturelles. Le présent séminaire a pour thème « Connaissances endogènes, savoir paysan et développement durable ». Le lieu pour les initiateurs de valoriser ces années de travail du docteur, mais aussi de poursuivre le chantier engagé pour relever les défis de l'heure. Docteur Ludovic Kibora, directeur de l'INSS.
Partout où il est passé, il a travaillé, il a maintenu cette trajectoire de recherche sur les savoirs endogènes. Et donc, les collègues, les jeunes collègues, dont certains ne l'ont même pas vu en activité tellement à l'Institut, parce qu'ils sont arrivés récemment, mais ont tenu à ce qu'on le célèbre, non pas en hommage simple, mais comme c'est un chercheur, il faut qu'on encadre cela aussi avec une journée. Fait donc d'exposer des champs scientifiques autour de la thématique donc des savoirs endogènes.
Cet acte est perçu comme une grande marque de considération par Dr Diala qui traduit toute sa satisfaction.
Moi je prends ça comme une grâce et je leur dis infiniment merci et que en faisant cela, bon, c'est comme Joseph Kizerbo qui disait hein, qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. En fait, c'était une manière élégante pour lui d'enseigner à la jeune génération qu'elle peut très bien s'appuyer sur l'ancienne génération, puiser à la source des anciens pour en fait aller de l'avant. C'est comme si on leur demandait de savoir nouer la nouvelle corde à l'ancienne.
Dr Diala a également occupé plusieurs postes de responsabilité au Burkina. Il a été chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale de 1984 à 1986, directeur exécutif du CAPES de 2005 à 2012. Il sera nommé ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi de 2013 à 2014. Il est auteur de plus d'une quarantaine de publications, articles scientifiques et de vulgarisation confondus. Il a été admis à la retraite en décembre 2019.
L'actualité internationale sur Omega. En Guinée, l'ancien président guinéen, le capitaine Moussa Dadis Camara, est arrivé ce dimanche au petit matin. Dadis Camara qui a été mis en prison aujourd'hui même, mardi 27 septembre. Après donc son arrivée samedi dernier, Moussa Dadis Camara est poursuivi dans l'affaire concernant le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Moussa Dadis Camara qui va donc comparaître à partir de demain avec d'autres accusés pour l'affaire du 28 septembre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et dans les flashs à suivre. Aux États-Unis, ces 5 militants de la milice d'extrême droite Oath Keepers, partisans présumés de Donald Trump devant le juge, ils sont jugés pour conspiration séditieuse à cause de leur participation supposée à l'assaut du Capitole, le siège du Parlement, le 6 janvier 2020. En clair, ils auraient élaboré un plan pendant plusieurs semaines dès l'annonce de la victoire du président Joe Biden pour tenter d'empêcher le transfert du pouvoir. Au total, 900 personnes ont été inculpées pour leur participation à l'attaque. Près de 400 ont plaidé coupables. Un ancien policier a déjà été condamné à 10 ans de prison.
La revue de presse.
Un tour maintenant des journaux du jour et il est question des agressions de civils par des militaires à Ouagadougou, des déclarations à polémique des autorités maliennes sur le président nigérien Mohamed Bazoum, mais aussi du 20e anniversaire du naufrage du Jola au Sénégal. Lecture croisée des journaux, Valérie Guéré.
Agression de civils par des militaires à Ouagadougou, la discipline légendaire de l'armée piétinée, s'exclame le journal Le Quotidien pour ce quotidien burkinabé. Comment cela peut être une réalité si dans le même temps, des militaires se donnent le droit d'agresser des civils? Car selon notre confrère du journal Le Quotidien, l'armée a toujours demandé que les civils collaborent avec les FDS dans la lutte contre le terrorisme. À l'international, plusieurs sujets intéressent nos éditorialiste du jour. L'Express du Faso souligne à sa une qu'il faut véritablement sauver le Mali. Pour le journal Bobolais, à dire vrai, les autorités de la transition politique au Mali et en Guinée ne sont pas du tout dans une logique de coopération franche avec les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Si en Guinée, le ton est encore plus mesuré pour l'instant, cela n'est pas le cas au Mali, mentionne notre confrère de l'Express du Faso, qui pense que les autorités maliennes oublient que s'attaquer à un chef d'État, même personnellement, revient à s'attaquer à son peuple. Aussi, s'intéresser à la question malienne, c'est s'intéresser à ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en un mot, à tout ce qui se passe dans la sous-région, commente notre confrère de l'Express du Faso. En parlant de sous-région, le Sénégal a commémoré hier 26 septembre les 20 années du naufrage du Jola. Un deuil difficile, mentionne le journal Le Quotidien à sa une, tout en rappelant les faits. 26 septembre 2002, 26 septembre 2022, voilà 20 ans que disparaissait le Jola au large des côtes gambiennes, emportant le flot des vagues tumultueuses de la mer, près de 2000 passagers. 20 ans après ce drame, qui reste l'une des plus grandes catastrophes maritimes au monde, les fantômes des disparus continuent de hanter leurs familles qui n'ont du reste que leurs yeux pour pleurer depuis que la justice s'est montrée incapable de démêler l'échafaud en désignant les coupables et en déterminant le degré de responsabilité des uns et des autres. Aujourd'hui, au Faso renchérit et souligne que nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à faire le deuil pour absence de corps ou de reste. Comment peut-on alors fermer les yeux sur de tels actes tout en sachant que c'est la vie d'innocentes personnes qui était aussi mise en danger, s'interroge le journal des 1200 logements qui pense qu'il appartient à chaque citoyen de comprendre qu'il est le premier responsable de sa vie. Car en tout état de cause, on ne vit qu'une fois, à chacun selon son destin.
Cette édition du journal se referme ici. Fidèle Compaoré a assuré la mise en onde et Ibrahim Niaouné la retransmission sur Facebook. Je suis Abdoul Fattah Tiamtouré, au plaisir de vous avoir présenté ce journal et de vous retrouver bientôt pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches parce que c'est la meilleure façon de prendre soin de vous-même. Excellente soirée à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.